France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Ce 11 novembre, Emmanuel Macron a inauguré aux Invalides une plaque en hommage aux incorporés de force alsaciens et mosellans. Un geste attendu depuis des décennies qui vient clore un long cycle de malentendus et d'oubli. Derrière la cérémonie, c'est toute une mémoire longtemps confinée à l'est de la France qui refait surface, celle des malgré nous et des malgré elles enrôlés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi leur reconnaissance a-t-elle pris autant de temps? Que révèle ce retour dans la mémoire nationale de notre rapport à l'histoire, à la guerre, à la réconciliation? Un invité ce soir pour en parler, Jean-Noël Grandhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine à Nancy, membre des comités scientifiques du mémorial de Verdun et du mémorial Alsace-Moselle. Bienvenue dans Question du soir. Et je le disais, Jean-Noël Grandhomme, ce matin, Emmanuel Macron a inauguré aux Invalides une plaque en hommage aux incorporés de force alsaciens et mosellans. Qu'est-ce que cela représente pour vous qui travaillez sur ce sujet depuis déjà beaucoup d'années?
C'est comme vous venez de le dire, une forme de reconnaissance, alors peut-être pas définitive, il y aura peut-être encore d'autres gestes à l'avenir. Mais je crois qu'il était attendu par les derniers anciens, il y en avait quatre qui étaient là ce matin, qui avait autour de 100 ans, et aussi par toutes les familles, puisque c'est une question qui a concerné pratiquement toutes les familles en Alsace et en Moselle. Donc cette reconnaissance d'une Seconde Guerre mondiale spécifique pour ces trois départements de l'Est, qui longtemps ont été moins connus que les autres, mais je crois que depuis quelques années, et c'est justement une étape importante, les Français connaissent mieux cette histoire des malgré nous et des malgré elles.
Alors, avant de tenter de comprendre pourquoi cette reconnaissance a été longue, laborieuse, on va essayer de saisir qui étaient ces malgré nous et ces malgré elles. D'abord, cette expression, elle est marquante, hein, malgré nous, malgré elles. D'où vient-elle? Les deux ne naissent pas au même moment. Hein.
Non, pas du tout. Alors, l'expression malgré nous est antérieure à la Seconde Guerre mondiale, hein, puisqu'elle apparaît en 1920. Pour désigner à l'époque seulement les Lorrains qui étaient incorporés dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui était tout à fait normal puisque, qu'ils le veuillent ou non, ils étaient citoyens allemands depuis le traité de Francfort de 1871. Donc il s'agissait de les intégrer dans le monde des anciens combattants français qui étaient évidemment réticents à voir au sein des associations des gens qui avaient porté l'uniforme allemand. C'est pourquoi on a inventé cette formule. Ils étaient dans l'armée allemande, bien sûr, mais malgré eux, c'est-à-dire leur cœur était resté français.
Par contrainte, sans le vouloir.
Alors, par contrainte, si on veut, juridiquement, il n'y avait rien de répréhensible. L'Allemagne incorpore des citoyens allemands dans son armée, c'était normal. Mais comme ils sont redevenus français ensuite, il a fallu trouver cette formule. Donc, ils auraient tous été réticents à entrer dans l'armée allemande. En réalité, la plupart d'entre eux ne se posaient certainement pas la question. Un certain nombre étaient très francophiles, et un certain nombre aussi étaient germanophiles. Hein. C'est une réalité complexe.
Le terme de malgré elle, lui, est popularisé dans les années 2000, notamment grâce au travail d'une réalisatrice, Nina Barbier. On y reviendra. Je reste un instant sur ces malgré nous. Que se passe-t-il au cours de la Seconde Guerre mondiale, et notamment au moment où l'Allemagne cherche des renforts, lorsque les États-Unis entrent en scène dans cette Seconde Guerre?
Alors, la situation de la Seconde Guerre mondiale est complètement différente, puisque là, on a affaire à des citoyens français en droit international, puisqu'il n'y a eu aucun traité entre la France et l'Allemagne. Donc, c'est vraiment la grande différence entre les deux guerres. On parle d'une annexion de fait. Les Alsaciens et les Mosellans ont bien compris qu'ils étaient incorporés au Reich allemand, mais en droit, ils restaient des citoyens français. Même Vichy les reconnaissait encore comme tels dans des protestations secrètes, et aussi les Américains, les Britanniques. Donc, il s'agit de citoyens d'un autre pays qui sont incorporés dans l'armée allemande. Et donc, on a une situation qui a été dénoncée d'ailleurs au tribunal de Nuremberg, étant un crime de guerre. On n'oblige pas des gens qui n'ont pas la nationalité d'un pays à servir dans son armée. Donc, ces incorporés de force, et malgré nous, ont un statut juridique bien connu, bien défini.
Quelques chiffres pour se rendre compte de l'ampleur justement de de cette démarche-là. Combien de personnes ont été concernées par ces enrôlements ?
Alors, si on considère l'armée, mais aussi les organismes paramilitaires comme le RAD, qui était un service du travail obligatoire, on arrive à environ 140 000 personnes, dont peut-être environ 8 000 femmes.
Où les malgré nous ont-ils été envoyés ? On dit qu'ils ont d'abord et avant tout été envoyés sur le front de l'Est.
Oui, ils étaient essentiellement sur le front de l'Est, mais je dirais parce que l'armée allemande y était en masse de toute façon. Pour simplifier, on pourrait dire que partout où se trouve la Wehrmacht, on trouve des Alsaciens et des Mosellans. Donc également en Italie, en Scandinavie, en Europe centrale et aussi en France.
Même en Normandie, notamment au moment du débarquement des forces alliées. Je voudrais vous faire entendre un témoignage d'un ancien malgré nous qui évoque son incorporation dans l'armée allemande. C'était le 19 septembre 1990.
Il faut l'avoir vécu pour se rendre compte du drame intérieur que l'on éprouve lorsqu'on sait très bien qu'à tout instant, on peut laisser sa vie. J'ai passé de nombreux mois dans des tranchées, à une centaine de mètres des Russes, dans une guerre qui n'est pas la vôtre, dans une victoire qui tout simplement maintient votre propre soumission, où l'on n'a qu'une idée en tête, c'est de revenir. On revient. Qu'est-ce qu'on peut prouver ? On vous objectera toujours. Mais enfin, vous avez porté l'habit. Vous avez beau dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais enfin, c'était la chose la plus visible, comme quoi, probablement, vous avez marché tout simplement parce que vous aviez envie de marcher.
Porter l'habit, c'est-à-dire porter l'uniforme allemand, énormément d'éléments, de choses émouvantes que je voudrais décortiquer avec vous, Jean-Noël Grandhomme, dans ce témoignage. Pour commencer, cet homme dit, affirme qu'il est traversé par un drame intérieur. Quel est ce drame intérieur qui caractérise les malgré nous et les malgré elles ?
Alors, la question qu'ils se sont tous posés, est-ce que je vais y aller ou pas ? Donc certains avaient plus de facilité que d'autres pour essayer de s'enfuir, hein, notamment ceux qui habitaient le long de la frontière suisse. Et il y a eu ce qu'on appelle les grandes évasions du Sungo, le Sungo étant une petite région au sud de l'Alsace, en février 1943. Seulement si les premiers jours, un certain nombre de gens ont pu passer, les Allemands attendaient les suivants. Et ils ont fait fusiller une quinzaine de jeunes gens au camp du Struthof pour l'exemple. Ce qui a évidemment découragé les vocations de désertion ou d'insoumission, puisqu'ils n'étaient pas encore incorporés. Mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont cachés dans leur famille ou dans des forêts. Et évidemment, c'est inévitable, le plus grand nombre sont allés au conseil de révision, ont porté l'uniforme allemand. Parce que dans tous les pays, la plupart des gens suivre le mouvement, s'opposer, c'est quand même moins fréquent que de suivre le mouvement. Et puis aussi le Gauleiter, Wagner, donc le gouverneur de l'Alsace, si on veut, a appliqué ce qu'il appelait la responsabilité du clan. Si jamais vous n'y allez pas, on déporte votre famille. Donc les parents, les frères et sœurs, parfois les grands-parents. Pas dans des camps d'extermination, mais tout de même dans des camps de travail où la vie était dure et tous n'en sont pas revenus.
Ce qu'il faut préciser, c'est que cette règle concerne les 130 et 140 000 malgré nous, malgré elles, qui ont été enrôlés de force, que la désertion impliquait ce que vous venez de décrire, ainsi que le suicide, qui était considéré comme une désertion.
Oui, alors il y a quelques exemples de suicides qui sont documentés, c'était évidemment quand même très rare. Hein.
Mais pour cette raison notamment.
Effectivement, on soustrayait sa vie au Reich en quelque sorte, hein. Il avait un soldat de moins, donc on punissait également la famille. Oui.
Lorsque ce malgré nous que l'on vient d'entendre explique par ailleurs que cette guerre n'est pas la sienne, il dit cette guerre n'est pas la nôtre, là aussi que veut-il dire ? Comment est-ce que vous analysez ce fragment-là ?
Eh bien, puisque toutes ces personnes étaient françaises de nationalité, cette guerre de l'Allemagne n'est pas leur guerre. Et comme le dit ce témoin, plus l'Allemagne remportait de victoires, plus le moment où l'Alsace allait être libérée de l'emprise nazie s'éloignait. Donc il n'avait aucun intérêt à ce que l'Allemagne gagne, évidemment.
Le drame fondamental hein, des malgré nous, des malgré elles, c'est qu'ils sont déconsidérés par les Français, évidemment, qu'ils les ont associés longtemps, très longtemps à la collaboration, mais ils sont aussi méprisés au moment d'être enrôlés par les Allemands qui ne les intègrent que difficilement à leurs propres unités.
Oui, alors il y a plusieurs étages, si on peut dire. Hein. D'abord, il faut rappeler tout de même qu'il y a eu un certain nombre de volontaires. 3 à 4 000 Alsaciens mosellans ont été volontaires dans la Wehrmacht ou dans les Waffen-SS. Ça a fait l'objet d'un mémoire de master il y a peu de temps. Mm-hmm. Mais si on le met en balance avec le nombre de personnes qui étaient dans la milice, la LVF ou d'autres unités collaboratrices, je crois qu'on est à peu près dans la même moyenne. Alors, ceux qui étaient incorporés dans la Wehrmacht ont dû d'abord, à leur retour, supporter le regard d'autres Alsaciens et Mosellans qui, eux, n'avaient pas vécu la même histoire parce qu'ils étaient en France à cette époque-là. Il faut se rappeler que beaucoup de gens avaient été évacués par l'armée française en 1939 en raison du fait que l'Alsace allait devenir un champ de bataille, et notamment dans le sud-ouest, notamment à Oradour. Et la plupart de ces gens ne sont pas rentrés en Alsace et en Moselle, donc ils ont vécu la même chose que les autres Français, en quelque sorte. Et lorsque parfois deux frères, deux cousins se sont retrouvés après la guerre, il y avait une remarque facile. Pourquoi tu n'as pas fait comme moi? Tu n'aurais pas eu besoin de porter l'uniforme allemand. Mais évidemment, le libre arbitre n'est pas une chose qu'on peut exercer simplement dans des circonstances pareilles. Hein.
Alors vous avez commencé à le faire, je voudrais que l'on tire ce fil, que l'on tente de comprendre pourquoi la reconnaissance par la nation française de ces malgré nous fut si longue et si laborieuse. Peut-être commencer par expliquer qu'il s'agit d'abord d'une mémoire de l'Est de la France, que trois départements seulement, entre guillemets, ont été concernés, et que c'est peut-être la nation tout entière qui a eu tant de mal à se l'approprier.
Oui, ça ne concerne que trois départements, comme vous le dites. Donc, il est un peu humain et compréhensible que ça n'intéresse pas au premier chef les autres départements. Est-ce que les Alsaciens s'intéressent à ce qui s'est passé à Menton ou à Bordeaux pendant la guerre? Peut-être pas autant qu'il le faudrait. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a eu, je pense, plusieurs niveaux, là aussi, hein, le grand public, l'État. L'État, dès le début, s'est intéressé au malgré nous. Le général de Gaulle leur a donné la mention « mort pour la France » dès 1945, puisqu'ils étaient victimes d'un crime de guerre. Quoi qu'ils aient fait ensuite sous l'uniforme allemand, ça ne changeait strictement rien. Puisqu'ils avaient été incorporés de force victimes d'un crime de guerre, tous ceux qui sont morts pour la France. Donc l'État, dès le début...
Alors même qu'ils ont lutté contre les alliés.
Alors même qu'ils ont lutté contre les alliés, effectivement. Mais comme ils étaient sous la contrainte... les morts ont été déclarés morts pour la France et les disparus aussi en 1999, donc bien longtemps après. Donc l'État a reconnu assez vite les malgré nous, mais le grand public a été surtout traumatisé par le procès de Bordeaux en 1953, qui concerne le massacre d'Oradour-sur-Glane, donc plus de 600 personnes exterminées par les SS, la division d'Astreich.
À la toute fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Enfin, un peu après le débarquement, c'était pas encore tout à fait la fin, mais les Alliés venaient de débarquer, donc les SS étaient de plus en plus nerveux. Hein. Ils ont commis ce massacre. Alors, il faut pas oublier aussi que dans l'église, il y avait une soixantaine d'Alsaciens et de Mosellans qui ont été tués aussi. C'était ces réfugiés, notamment d'un village qui s'appelle Charlie, près de Metz, qui est devenu Charlie-Oradour après, et de Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg. Donc il y avait des Alsaciens aussi qui sont morts là-bas. Et il y en avait dans la division d'Astreich, parce qu'on a incorporé de force, en Alsace uniquement et pas en Moselle, des jeunes dans les SS aussi. Notamment la classe 26, donc des gens qui avaient 17-18 ans au moment d'Oradour. Et alors ce procès en 1953... se passe dans une époque où le Parti communiste est très fort, notamment dans le Limousin, où il y a une concurrence entre les gaullistes et les communistes pour savoir qui a été le plus résistant. Les autres forces politiques sont presque effacées, alors qu'elles ont aussi donné des résistants, que ce soit les socialistes, même la droite extrême. Toutes les familles ont donné des résistants. Donc ces 12 incorporés de force sont un peu ballottés par l'histoire. Ils se retrouvent condamnés alors qu'eux, ils s'estiment victimes d'un crime de guerre. Et finalement, le gouvernement règle ça par une loi d'amnistie. Enfin, le Parlement vote une loi d'amnistie. Donc, ils sont condamnés, mais ils sont amnistiés. C'est un espèce d'entre-deux. D'où un malentendu assez long, notamment avec Oradour. Hein. C'est seulement en 1998 qu'un maire de Strasbourg s'est rendu à Oradour pour la première fois.
J'allais y venir justement sur ce tournant qui se joue dans les années 90. C'est le moment où la génération des incorporés arrive à la retraite. Pourquoi ? C'est dans cet instant, dans cette séquence-là, que la mémoire commence à se transformer à l'égard de ces malgré nous et de ces malgré elles.
Oui, je crois qu'il y a vraiment un tournant sur les années 1994-95. C'était le cinquantenaire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a eu énormément de manifestations, je dirais presque dans tous les villages d'Alsace et de Moselle, comme ailleurs en France d'ailleurs. On a célébré la libération et on a aussi fait des entretiens, des expositions avec les malgré nous, sur les malgré nous. Et beaucoup ont commencé à écrire. Alors parce qu'ils arrivaient à la retraite, sûrement ils avaient plus le temps, et parce qu'ils voulaient aussi laisser quelque chose, non seulement à leur famille, mais à l'ensemble de l'Alsace et de la France, l'Alsace-Moselle et de la France. Donc il y a un certain déblocage à ce moment-là, et les gens, par exemple, je vois ça notamment dans les annonces mortuaires, dans les journaux, où à partir de cette époque, on voit Monsieur un tel ancien malgré nous, ancien de Tambov, un camp en Union soviétique où énormément d'Alsaciens ont été détenus. Ou ensuite même ancienne malgré elle. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus, mais c'est quasi systématique lorsqu'une personne décède.
Il faut donner ce chiffre qui a été révélé par France Info. Il existe encore entre 20 et 30% de monuments qualifiés de silencieux en Alsace et en Moselle. C'est-à-dire que le nom de ces malgré nous, de ces malgré elle, de ces morts pour la France en uniforme allemand n'apparaît pas sur les monuments aux morts. Comment l'expliquer là aussi ?
Là, je crois vraiment que c'est un faux problème. C'est-à-dire que dans le reste de la France, on va aussi trouver de nombreux monuments où il n'y a pas de nom. Il y a aussi des modes architecturales. Après la Première Guerre mondiale, on a systématiquement ou presque inscrit les noms, sauf dans les grandes villes, hein, parce qu'il y en aura eu trop, Strasbourg par exemple, ou ailleurs. Mais les nazis ont démoli environ 40% des monuments aux morts d'Alsace-Moselle. Ça les gênait qu'il y ait des noms de juifs, qu'il y ait des prénoms qui étaient francisés, un Karl qui était devenu un Charles, etc. Donc ils ont pratiqué le vandalisme. Et après-guerre, on a souvent reconstruit, alors je dirais pas à la va-vite, parce que parfois c'était très lent, encore en 2025 on a inauguré un monument en Moselle, mais peut-être la mode d'écrire tous les noms était parfois passée. Parfois non, vous le dites, hein, vous venez de donner des chiffres, donc 70% à peu près des monuments comportent les noms. Donc je pense pas qu'il y ait une honte, une réticence. À partir du moment où ils sont vraiment estampillés « morts pour la France ». Parce qu'évidemment, dans différents villages, il y a des gens qui n'ont pas de mention, soit parce que leur dossier n'a pas été instruit, soit parce qu'on considère qu'ils étaient volontaires. Donc en principe, ceux-là n'y sont pas.
Et les malgré elles, alors pourquoi ce terme en vient à se populariser dans les années 2000, et j'allais dire même seulement au cours de cette décennie-ci ?
Oui, alors en bon français, on peut estimer que malgré nous recouvre aussi bien les hommes que les femmes.
Et pourtant, un autre terme surgit.
Un autre terme, donc c'est cette votre consoeur, Nina Barbier, donc une journaliste dont la maman avait été elle-même incorporée de force, qui a écrit un livre en l'an 2000, effectivement, qui s'appelle « Les malgré elles », où elle a donc forgé, en tout cas utilisé, je ne sais pas si c'est elle qui l'a inventé, ce mot, qui s'est généralisé par la suite. Et donc on a découvert le parcours de ces femmes, qu'on connaissait déjà un peu. La plupart ont été incorporées dans le RAD, donc le service du travail obligatoire que j'évoquais tout à l'heure, comme les hommes. Chez les femmes, c'était pas l'ensemble d'une classe d'âge, parce qu'on estimait notamment que toutes celles qui pouvaient aider à la ferme ou à d'autres travaux étaient exemptées, donc c'était beaucoup de citadines. Et quelques-unes, enfin quelques centaines, ont été également dans l'armée, proprement dite, hein, Kriegshilfsdienst, hein, service auxiliaire, dactylo, infirmière, mais même quelques-unes, j'ai eu la chance de rencontrer une dame il y a quelques années, qui était dans la DCA, donc elle était même enchaînée pendant les attaques à un canon, pour qu'elle ne s'enfuit pas. Donc ces dames-là, elles ont été indemnisées déjà dans les années 60, et en tout cas en 1984. Le problème s'est posé pour les personnes qui n'avaient fait que le RAD et pas l'armée. Et ça n'a été débloqué, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qu'en 2008. avec Jean-Marie Bockel, qui était secrétaire d'État alsacien dans le gouvernement de l'époque.
Je voudrais revenir, Jean-Noël Grandhomme, sur la représentation, l'iconographie de ces malgré nous qui a circulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ces malgré nous étaient représentés portant l'uniforme allemand. À quel point cette représentation-là a-t-elle été associée à la collaboration et donc a-t-elle collé à la peau et à la difficile reconnaissance de ces personnes?
Oui, on sait, on a des carnets par exemple de personnes de la 2e DB ou des Américains qui sont choqués en entrant dans les intérieurs en Alsace et en Moselle de voir au mur des photos de jeunes gens en uniforme, y compris de l'ASS. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup de familles, c'est la dernière photo qu'elles ont de l'être aimé, du fils, du frère, du père. Donc l'uniforme n'est pas en cause, hein, c'est d'avoir le dernier visage du mort. Donc évidemment, on comprend que ça puisse choquer, mais en même temps, c'est pas l'uniforme qu'on veut voir dans sa salle à manger, c'est le visage de celui qui n'est plus là. Et une autre image s'est installée, surtout à partir des années 90, c'est celle du malgré nous prisonnier, notamment en Union soviétique, et notamment dans ce camp de Tambov que j'évoquais tout à l'heure, où on estime que les chiffres ont été revus à la baisse. On estime, mais ça n'enlève en rien aux souffrances, à environ 3000 Alsaciens et Moséens qui sont morts dans ce camp, surtout pendant l'hiver 44-45, alors que les soviétiques savaient qu'ils étaient français, mais ils ne les ont libérés qu'en masse qu'à l'automne de 1945, et le tout dernier en 1955 seulement. Le tout dernier a mis 10 ans à rentrer.
Il est un autre point important que vous mettez en exergue, Jean-Noël Grandhomme, dans vos articles sur ce sujet. C'est notamment l'idée que ces malgré nous n'entraient dans aucune des catégories héroïques de la libération. Là aussi, il faut nous expliquer ce que vous voulez dire par là.
Oui, on a une Première Guerre mondiale qui est quelque chose qui est vraiment l'aventure de toute la nation. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est très différent. La mémoire est vraiment divisée en différentes catégories. Il y a les anciens de la France libre, les anciens de l'armée d'Afrique. Ensuite, ils sont entrés dans la France combattante, mais ils n'ont pas vécu la même chose pendant les deux premières années. Il y a ceux qui étaient, bien sûr, dans la collaboration. Cette mémoire-là, on ne veut pas la voir. Il y a ceux qui étaient OSTO. Ceux qui ont été déportés pour raisons raciales, pour raisons politiques. Et donc, il y a énormément de catégories. Et une catégorie en plus, donc, c'est celle qui concerne uniquement ces trois départements de l'Est, les incorporés de force. Donc, on comprend que chaque groupe humain veut faire valoir d'abord ses souffrances. Hein, on appelle ça, les historiens appellent ça la concurrence des victimes. Et les malgré nous n'étaient pas les plus nombreux, ils avaient, oui, on revient toujours à la même chose, ils avaient porté l'uniforme allemand, donc leur cause n'était pas forcément la plus médiatisée, la plus populaire, mais malgré tout, elle n'était pas oubliée, hein. Dès les années 40-50, on parle d'eux.
Vous parlez de la concurrence des victimes, et en même temps, c'est très intéressant, vous dites, vous écrivez qu'à travers cette reconnaissance des malgré nous, ce n'est pas à un groupe particulier auquel on rend hommage, c'est bien plus que cela, c'est l'ensemble peut-être de ces victimes nombreuses, protéiformes de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, encore une fois, il faut nous expliquer pourquoi, j'allais dire, cette reconnaissance dépasse les malgré nous eux-mêmes.
Oui, c'est la reconnaissance du sort spécifique qui a été réservé à ces trois départements. Un excès de fait, hein, on le disait tout à l'heure, il faut voir que ça n'a rien à voir avec une, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, une simple occupation. L'occupation et l'annexion, c'est une échelle très différente. En Alsace-Moselle, si vous restez tranquille dans votre coin, si vous ne faites pas de politique, vous êtes déjà suspect. Parce que ça prouve que vous n'êtes pas enthousiaste. Il faut absolument toujours en faire plus pour ne pas être inquiété. Donc vous avez des gens qui sont obligés de porter des uniformes, notamment de DSA ou de toutes sortes d'organisations nazies, tout simplement s'ils veulent garder leur emploi de cheminot ou de postier. Après, c'est difficile à comprendre pour les Français de l'intérieur, comme on dit en Alsace-Moselle, après la guerre. Et on évoquait tout à l'heure les désertions, les insoumissions. Pourquoi n'ont-ils pas tous déserté? Alors on a répondu en partie déjà. Mais quand on est dans un maillage totalitaire, je crois que c'est vraiment pas facile. Et quelques-uns, et plusieurs milliers l'ont fait, d'ailleurs. Ils se sont cachés, ils ont déserté, se sont rendus aux Russes, aux Américains, aux Britanniques.
Merci beaucoup, Jean-Noël Grandhomme, d'être revenu sur cette histoire complexe et passionnante des malgré nous et des malgré elles. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, à Nancy, membre des comités scientifiques du mémorial de Verdun et du mémorial Alsace-Moselle. Un grand merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain à la réalisation. C'était Léa Racine. France Culture.